reprendre donc le livre des rois au chapitre, on en était arrivé au chapitre 5. Et ce sont des textes qui ne sont pas toujours faciles, qui peut-être semblent pour certains, ce sont des textes qui font appel aux techniques de construction, enfin en tout cas, et peut-être vous n'êtes pas de la partie construction en tout cas par rapport à ça, mais si ces textes sont là, c'est qu'ils ont une importance. Et comme Morel l'a dit tout à l'heure, eh bien, ce sont des, si nous recherchons la gloire de Dieu, nous allons la trouver. Et dans ces textes, n'en doutons pas, ces textes reflètent la gloire de Dieu. Même si ça peut nous sembler parfois difficile à comprendre, à saisir, surtout si vous n'êtes pas maçon ou tailleur de pierre, ou n'empêche que nous allons nous donner la peine enfin, de la creuser. Et il y a des pépites dans ces textes qui sont pour nous aujourd'hui. Donc je vais lire à partir du chapitre 5 et je lirai en deux fois. Premièrement, du chapitre 5, les versets 1 à 18. Pour vous, dans, si c'est une autre version, il est possible que ça soit du chapitre 15, pardon, du verset 15 au verset 32. Sinon, les versets classiques, c'est du chapitre 5, du début jusqu'au verset 18. Donc voilà, il se peut qu'il y ait un petit décalage parfois d'une version à l'autre. Donc je lirai. Et dans le titre de mon message, c'est « Dans le temple, tout dit gloire ». Chapitre 1, roi 5. Hiram, roi de Tyr, envoyait ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on lui avait donné l'onction comme roi à la place de son père. Or, Hiram avait toujours aimé David. Salomon envoya dire à Hiram, « Tu as connu David, mon père, et il n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel, son Dieu, à cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis ses ennemis sous la plante de mes pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de coups malheureux. Voici que j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec tes serviteurs et je te donnerai le salaire de tes serviteurs conformément à tout ce que tu diras. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres comme les Sidoniens. » Lorsque Hiram entendit les paroles de Salomon, il eut une grande joie et dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour diriger ce peuple nombreux. » Hiram envoya répondre à Salomon « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce que tu désires au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'à l'endroit où tu m'enverras de la main-d'œuvre. Là, je les ferai délier et tu les prendras en charge. » Quant à toi, tu feras ce que je désire en donnant des vivres à ma maison. Hiram donnait à Salomon du bois de cèdre et du bois de cyprès autant qu'il en désirait. Salomon donnait à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. Voici ce que Salomon donnait chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait dit. Il y eut la paix entre Hiram et Salomon et ils conclurent ensemble une alliance. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et deux mois chez eux. Adoniram était surveillant des corvées. Salomon avait encore 70 000 manœuvres et 80 000 tailleurs de pierre dans la montagne, sans compter les chefs des préfets de Salomon préposés aux travaux. 3 300 qui exerçaient leur autorité sur ceux qui exécutaient les travaux. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres pour poser en pierre de taille les fondations de la maison. Les ouvriers de Salomon, les ouvriers de Hiram et les Gibliens les taillèrent et préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Amen. Jusqu'ici, pour le moment, la parole de Dieu. Je reprendrai un peu plus tard la suite, chapitre 6. Voilà donc Dieu qui a affermi le règne de Salomon, le fils de David, après avoir éliminé ses ennemis. Et aussi, vous vous rappelez la prière de Salomon que Pascal vous a rappelé la semaine dernière. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Eh bien, Dieu va lui la donner. Et à quoi cette sagesse va-t-elle lui servir? Eh bien, à construire une maison pour Dieu. À construire une maison pour Dieu, c'est-à-dire le temple. Le temps est venu de le construire. Parce que maintenant que Dieu a donné du repos à Israël, eh bien, lui-même, il peut échanger sa tente de voyageur, le tabernacle, contre un édifice solide, en pierre, qui sera le temple. Ce projet de construire un temple à l'Éternel tenait beaucoup à David, mais ce n'est pas David qui Dieu confiera ce projet à son fils Salomon parce que David eh bien, a versé du sang du temps de son règne. Alors que le règne de Salomon sera un règne de paix, et c'est pendant son règne, c'est Salomon qui fera construire ce temple. Et c'est justement la vérité centrale que je retire de ce texte, c'est que Dieu veut se construire une maison à sa gloire. Dieu veut se construire une maison à sa gloire avec des juifs et des non-juifs. C'est ce que je vous propose de voir en trois points. Premièrement, je vais voir les préparatifs de la construction. Deuxièmement, nous verrons la construction en elle-même du temple. Et troisièmement, nous verrons, eh bien, quel est le temple aujourd'hui sous la nouvelle alliance ? Donc premièrement, voyons les préparatifs de la construction du temple. Alors il est fait mention dans ce passage de Hiram. Hiram, ce n'était pas un juif, c'était le roi de Tyr. C'était en Phénicie, qui était sur la côte, la côte nord de la Palestine. La bande de Gaza est dans ces parages-là, c'est aujourd'hui. Hein. Et donc c'était là où étaient les Philistins. Le roi Hiram, donc un non-juif, aimait beaucoup David, nous dit le texte. Et il a cherché à voir son fils, à voir Salomon, et Salomon l'a donc fait appeler, il lui a demandé ses services pour son projet de construire le temple. Et pourquoi ? Parce que Salomon connaissait la compétence des Sidoniens, donc des Tyriens, hein, les Sidoniens, dans la ville de Tyr. Il reconnaissait leur compétence pour couper des cèdres comme personne, des non-juifs donc. Et donc Salomon lui a demandé qu'on lui coupe et qu'on lui envoie des cèdres du Liban pour construire le temple, moyennant un salaire bien sûr. Hiram, roi de Tyr, était ravi de cette proposition pour construire ce temple et il lui fait dire qu'il lui coupera aussi non seulement des cèdres mais des cyprès. Et Hiram les lui livrera par radeau. Salomon n'aura plus qu'à envoyer des ouvriers jusqu'au Liban au nord pour aider à la coupe du bois et le récupérer. Moyennant un salaire, donc le salaire demandé par Hiram, c'était l'entretien annuel de sa maison, à raison de 20 000 corps de froment et 20 corps d'huile d'olive concassées. Un corps, ça faisait 350 litres. Ce qui fait que Hiram et Salomon ont fait alliance. Ils ont fait alliance, lui, un non-juif, Hiram, avec Salomon, un roi juif. Ils ont fait alliance, et nous dit le texte, selon la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Alliance entre un juif et un non-juif, selon la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Et Hiram lui-même l'avait reconnu, le non-juif. Il l'avait reconnu, il avait même béni l'Éternel, un non-juif. Je relis le verset 7, ou verset 21 selon les versions. Lorsque Hiram entendit les paroles de Salomon, il eut une grande joie et dit « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour diriger ce peuple nombreux. » Et un peu plus loin, au verset 12, c'est bien confirmé que c'est par la sagesse de l'Éternel que Salomon a fait alliance avec Hiram. Je lis le verset 12. « L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon comme il le lui avait dit. Il y eut la paix entre Hiram et Salomon et ils conclurent ensemble une alliance. » Alors ça peut surprendre, hein, parce que les juifs ne se mélangeaient pas comme ça aux non-juifs. Et là, il y a quand même un pas dans l'histoire d'Israël. Et il y a aussi une application pour nous. Comment est-ce que nous sommes dans un monde qui, pour la plupart, ne connaissent pas le Seigneur. Vous travaillez avec des non-chrétiens, pour la plupart. Eh bien, il y a une application pour nous. Nous ne sommes pas compétents en tout, nous autres chrétiens. Et il y en a d'autres, des non-chrétiens, qui sont plus compétents que nous dans certains domaines. Eh bien, nous pouvons demander les services de ces non-chrétiens, qui sont experts dans certains domaines, où ils sont compétents. Qui plus est, en leur demandant leur service, eh bien, nous pouvons les toucher, nous pouvons avoir un témoignage auprès d'eux, de qui est le Seigneur. On se rappelle, Hiram aimait beaucoup David. Hiram n'était pas juif, et pourtant David, qui avait un cœur pour Dieu, eh bien, ça rejaillissait sur Hiram. Il était touché par ce témoignage. Et puis aussi, eh bien, vous travaillez donc avec des patrons parfois non chrétiens, si c'est le cas, pour la plupart en tout cas, Eh bien, bien sûr que le chrétien, il n'est pas dans sa tour d'ivoire. Quand il cherche un travail, il va côtoyer des non-chrétiens, il va signer un contrat, une alliance avec son patron pour travailler dans sa société. Et bien sûr, dans ce cas-là, il y a aussi des limites. Les limites que le patron ne demande pas des choses à ses employés qui soient contre ce que dit Dieu. Et c'est étonnant parce que à cette époque-là, Hiram était roi de Tyr, donc un roi qui aimait David. Il y aura un autre roi de Tyr bien plus tard, en Ézéchiel chapitre 28, un roi de Tyr qui sera assimilé à Satan. C'est étonnant, c'est étonnant. Alors, il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est en Ézéchiel 28. Hein. Ça ne sera plus Hiram à ce moment-là. Et ça sera vraiment le portrait de Satan, le roi de Tyr à cette époque. Revenons à notre texte. Salomon, pour construire son temple, il va être obligé de recruter parmi son propre peuple des hommes de corvée. Des hommes de corvée, c'était David qui avait institué la corvée en Israël. Vous pouvez voir ça en 2 Chroniques, chapitre 2, versets 2, 17 et 18. C'était un travail énorme, et effectivement, il va falloir de la main-d'œuvre. C'était un travail énorme parce que le temple sera deux fois plus grand que le tabernacle. Le tabernacle, c'était la maison itinérante de Dieu, que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Ce temple sera exactement deux fois plus grand dans ses mesures. Et donc, Salomon va lever 30 000 ouvriers à raison de 10 000 hommes par mois et à tour de rôle à partir au Liban. Ces hommes devront partir au Liban une fois par trimestre, un mois au Liban, deux mois chez eux. Et là encore, on voit la sagesse que Dieu a donnée à Salomon pour ne pas priver ces hommes de leur famille. À cette main-d'œuvre vont être ajoutés 80 000 esclaves. Ce sont des Cananéens, donc des non-juifs. Le texte les nomme, ce sont des Gibliens. Eux vont être chargés de tailler les pierres pour le temple, verset 15. Et il y aura encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 3300 chefs pour diriger. Donc toute une équipe, hein, il fallait une bonne organisation. Et là, vu les moyens que s'est donné Salomon, quelqu'un a dit qu'il a hypothéqué une partie de son royaume. Dans un commentaire, j'ai trouvé que c'était bien dit. Il a hypothéqué une partie de son royaume, vu tout ce qu'il a investi dans cette construction. Et il y a même mis des hommes d'Israël, des hommes de corvée parmi les Hébreux. Et Salomon, à bien y regarder, ce n'était pas un monarque social, humanitaire, ou si social que ça. Il n'était pas humanitaire. Il a fait travailler son peuple. Et d'ailleurs, ça sera une des causes, de la séparation qui aura lieu sous son règne, le schisme qui aura lieu quelques temps plus tard, où il aura vraiment demandé beaucoup à son peuple. Et son peuple prendra une de ses raisons pour couper avec lui. Et il y aura le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. C'est une des raisons. Il y aura bien sûr l'immoralité qui a aussi perdu, en tout cas plutôt l'amour excessif des femmes qui a perdu Salomon. Alors c'est tout nouveau pour les Juifs. Imaginez, avant les rois, avant que surviennent Saül, puis David, puis Salomon, on était au temps des juges, chacun faisait ce qui lui plaisait. C'était le refrain qui revient à chaque fois. Or ici, les Juifs ont voulu un roi, ils l'ont eu. Et le roi va leur demander, il va leur demander beaucoup. Alors entre chacun faisait ce qui lui plaît et les exigences du roi, eh bien oui, ils ont voulu un roi et il y a une contrepartie. Effectivement. Aujourd'hui dans nos églises, bien sûr que on veut respecter la liberté et la sensibilité de chacun. Pour autant, nous avons des projets d'église où tout le monde est concerné. Tout le monde doit se sentir concerné parce que tout le monde peut en profiter justement et parce que nous faisons corps. Alors, et pour autant, nous voulons respecter la liberté et la sensibilité de chacun, sans tomber dans un individualisme non plus. Revenons sur cette alliance entre un roi juif, Salomon, et un roi non-juif, Hiram. Si ces textes sont là, le temple de Salomon, c'est le temps de construire le temple de Salomon, eh bien, le temple va donner... Le temple, c'est le lieu d'habitation pour Dieu, même si les murs ne peuvent pas le contenir, bien sûr. Ces textes sont là pour nous donner une idée de la relation que Dieu a avec son peuple. Et là, on y voit très clairement l'intégration des païens dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu de construire ce temple. Et c'est nouveau, l'intégration des païens. Dans le plan de Dieu de se construire une maison. Mais Dieu veut se construire une maison encore plus grande que ce temple, avec des croyants, des chrétiens, aussi bien juifs que non-juifs. Et ça sera son fils, Jésus, qui la bâtira. De quelle maison s'agit-il? Alors je vais développer ça au fur et à mesure. Même si vous n'êtes pas architecte, vous savez que pour construire une maison, la première chose à construire, c'est quoi? Ce sont les fondations. Et ça va être le cas, bien sûr, pour le temple de Salomon. Et je vais relire le verset 17 ou verset 31, si ce n'est pas la même version. Le roi, donc Salomon, ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres pour poser en pierre de taille les fondations de la maison. Et j'aimerais m'arrêter un peu sur ce verset. Les fondations de la maison, constituées de grandes et magnifiques pierres de taille qui vont être des pierres taillées. Alors là, ce n'est plus le tabernacle. Le plancher du tabernacle était constitué de planches. Un terme technique, c'était des ace, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, A-I-S. C'était des planches qui constituaient le plancher du tabernacle. Là, ce n'est plus le cas. Le tabernacle était itinérant. Aujourd'hui, ça va être des pierres qui vont servir à la fondation de la nouvelle maison. Vous vous rappelez que le tabernacle était posé sur le sable à chaque étape, lorsque les Juifs voyageaient dans le désert. Le temple, lui, devra être posé sur de solides fondations qui vont être des magnifiques et des grandes pierres de taille, nous dit le texte. Grandes et magnifiques pierres de taille. Alors, on peut se poser la question, pourquoi tant de soins apportés à des pierres qui vont être la fondation de la maison, qu'on ne va plus voir? Pourquoi tant de soins, même dans l'apparence des pierres taillées? Eh bien, le temple de Salomon préfigurait le temple de la nouvelle alliance qui sera plus tard l'Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et là encore, pour tout bâtiment, pour tout édifice, il faut un fondement, il faut des fondations. Eh bien Jésus, il est lui-même la fondation de sa maison, qu'est l'Église. Jésus lui-même, il est le roc. Jésus lui-même, il est la grande et magnifique pierre de taille. Parce que Jésus a été taillé. Il est la pierre qui a été taillée à l'extérieur du temple. Les pierres devaient être taillées à l'extérieur du temple. Jésus, on peut dire, a été taillé par ses souffrances. Lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour nous obtenir le pardon de nos péchés. Pour tous ceux qui se repentent et qui croient en lui. Aussi bien des juifs que des non-juifs. Jésus, donc, il est la pierre angulaire, il est la pierre de taille, il est le fondement de sa maison qu'est l'Église. Jésus, alors ces pierres de taille qui servaient à la fondation du temple, on ne les voyait pas, Jésus, on ne le voit pas, mais il est bien vivant, puisqu'il est ressuscité, et c'est lui qui soutient son Église, et elle tiendra, parce que c'est lui la fondation. On se rappelle que Salomon, fils de David, a bâti le temple lorsque Dieu lui avait donné du repos de tous côtés, plus d'ennemis. Il lui a donné la paix et le repos. Eh bien, il y a un parallèle quand on devient chrétien. Jésus a dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelqu'un qui se convertit, qui accepte le Seigneur, qui accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, il entre dans le repos de Dieu, même si ce monde est agité. Il rentre dans le repos de Dieu et il devient une pierre vivante dans la maison de Dieu, son temple, qui n'est plus un bâtiment. L'église, ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas les belles pierres que vous voyez là. Quelqu'un qui se convertit devient une pierre vivante dans la maison de Dieu, qui est aujourd'hui l'Église. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est l'habitation de Dieu en esprit là où Dieu vient faire sa demeure. Je vais lire dans le Nouveau Testament Éphésiens, chapitre 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Non, lorsque nous sommes assemblés, n'en doutons pas, frères et sœurs, le Seigneur, il est là. Il est là. Il habite au milieu de nous. Je vais y revenir. Donc les fondations sont posées. Et bien maintenant que les fondations sont posées, il ne reste plus qu'à bâtir la maison. Et Dieu va faire quelque chose de précieux à partir de matériaux bruts que sont des pierres. Je continue la lecture. On va voir maintenant la construction proprement dite du temple. C'est mon deuxième point. Et je reprends à partir du chapitre 6. Et là, la numérotation redevient la même pour tous. Ce fut donc un roi 6. Ce fut la 480e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte, la quatrième année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois, qu'il bâtit la maison pour l'Éternel. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de largeur, 20 de largeur et 30 coudées de hauteur. C'est là où je fais une pause, ça demande de la concentration. C'est très technique, mais ça vaut la peine de se concentrer. Verset 3. Le vestibule à l'avant du temple de la maison avait 20 coudées de longueur, correspondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la façade de la maison. Il fit à la maison des fenêtres à claire-voie grillagées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages périphériques qui entouraient les murs de la maison, temple et sanctuaire. Et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu large de 6 coudées et le troisième large de 7 coudées. En effet, il avait ménagé des retraits à la maison tout autour à l'extérieur, afin que la charpente ne prenne pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la bâtissait. L'entrée des chambres de l'étage intermédiaire était au côté droit de la maison. On montait à l'étage intermédiaire par un escalier et de l'étage intermédiaire au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la recouvrit de planches et de poutre de cèdre. Il bâtit les étages de 5 coudées de hauteur contre toute la maison et les fixa à la maison par des bois de cèdre. La parole de l'Éternel fut adressée à Salomon en ces mots. « Cette maison que tu bâtis, si tu marches selon mes prescriptions, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à ton père David. J'y habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. » Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en bâtit les murs intérieurs en planches de cèdre, depuis le sol de la maison jusqu'au plafond. Il recouvrit ainsi de bois l'intérieur et recouvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il bâtit sur 20 coudées le fond de la maison en planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au haut des murs. Et il bâtit aussi l'intérieur pour en faire un sanctuaire, le Saint des Saints. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit un sanctuaire intérieur au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. En avant du sanctuaire, qui avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur, et qu'il avait recouvert d'or fin, il recouvrit de cèdre un autel. Salomon recouvrit d'or fin l'intérieur de la maison, et il fit passer des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il avait recouvert d'or. Il avait donc recouvert d'or toute la maison toute entière, et il avait recouvert d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. L'une des ailes d'un chérubin avait 5 coudées, la deuxième aile du chérubin avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La hauteur du premier chérubin était de 10 coudées, de même pour le deuxième chérubin. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, à l'intérieur. On déploya les ailes des chérubins, l'aile du premier touchait à l'une des parois, et l'aile du second chérubin touchait à l'autre paroi. et leurs ailes se touchaient au milieu de la maison, aile contre aile. Salomon recouvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter en creux sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il recouvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage. Le pilier et l'encadrement équivalaient à 1/5 du mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les recouvrit d'or. Il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour l'entrée du temple, un encadrement de bois d'olivier sauvage, ayant le quart de la dimension du mur, et deux battants de bois de cyprès, deux planches pivotantes pour le premier battant et deux rideaux pivotants pour le deuxième battant. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les recouvrit d'or ajusté à la gravure. Il bâtit le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année, au mois de Ziv, les fondations de la maison furent posées, et la 11e année, au mois de Boul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon l'a construit en 7 ans. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc une construction, le temple, la construction du temple qui nous est présentée ici, hein, de façon détaillée, avec les mesures. Alors cette construction, elle a démarré, le texte nous dit, 480 ans après l'Exode, la sortie d'Égypte, la sortie des Hébreux d'Égypte. 480 ans après, on situe ça à peu près entre 967-966 avant Jésus-Christ, donc la construction du temple. Et sa construction a duré 7 ans. Alors c'est intéressant parce que la construction, la hauteur et la largeur du temple sont exactement le double de celle du tabernacle, la maison, la tente qui servait de lieu de temple avant la construction du temple en pierre. Elles sont exactement le double. Une coudée, ça fait à peu près 55 cm. Donc si on convertit en mètres aujourd'hui, ce temple, il faisait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Au final, c'est pas si énorme que ça, mais c'était deux fois la construction du tabernacle. 30 mètres de long, 10 mètres de large, 15 mètres de haut. Et le bâtiment, très clairement, il se divisait en deux salles. Il y avait le temple, le lieu saint, on pourrait dire, qui faisait 20 mètres de long, 10 mètres de large, 15 mètres de haut, qui avait des fenêtres grillagées pour laisser entrer la lumière. Ça, c'est la première salle. Et la deuxième salle, c'était le sanctuaire, le saint des saints, le lieu très saint. Et celui-ci avait des dimensions cubiques. Il faisait 10 mètres de long, 10 mètres de large, 10 mètres de haut. Et il était destiné à recevoir l'arche de l'Éternel, qui avait aussi voyagé dans le tabernacle. Donc le Saint des Saints, il faisait partie du grand bâtiment, et il occupait donc 20 mètres de long, sur 10 mètres de large, 10 mètres de long, 10 mètres de large, 10 mètres de haut, qui était aussi cubique. Mais il était deux fois plus grand que le Saint des Saints du tabernacle. On va s'arrêter sur les matériaux. Alors, le verset 7, on va s'arrêter sur ce verset 7, qui nous dit que toutes les poutres et les pierres étaient préalablement taillées à l'extérieur du temple. On n'entendait rien dans le temple, c'était le silence, parce que tout le travail se faisait à l'extérieur. Et ensuite, il ne restait plus qu'à les assembler sans outils de fer, une fois qu'ils ont été transportés. Je relis le verset 7, du chapitre 6, « Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la bâtissait. » Le temple a donc été érigé silencieusement. Et il en va de même pour l'Église. L'Église qui est le temple aujourd'hui, le temple vivant de Dieu. Le monde, c'est la carrière d'où sont tirées les pierres vivantes qui vont constituer l'Église, vous, si vous croyez. Le monde, c'est la carrière d'où sont tirées et rachetées les pierres vivantes. Quand quelqu'un se convertit, accepte le Seigneur comme son sauveur, Jésus, c'est que son cœur de pierre a été préalablement taillé dans la souffrance, dans ce monde. Ce monde engendre la souffrance. Quand on accepte le Seigneur, c'est tout un processus que le Seigneur a fait en nous. Il nous a taillé, il a taillé notre cœur dans la souffrance. Et quand on accepte le Seigneur, c'est d'abord dans le secret de son cœur, avec Dieu, sans tambour ni trompette. On accepte le Seigneur dans la repentance et dans la foi, dans le secret avec lui. Par contre, il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se repent et accepte le Seigneur. C'est la fête au ciel. Pendant la construction, donc la construction n'était pas finie, Dieu adresse la parole à Salomon pour confirmer son alliance avec David, qu'il avait faite avec David au préalable. Cette alliance, c'était qu'il promettait d'habiter dans le temple, je cite, au milieu des enfants d'Israël, voilà, à quelles conditions, si le roi lui obéissait, vous, ce sont les versets 11 à 13. Dieu promet d'habiter dans son temple, au milieu des enfants d'Israël, si le roi lui obéissait. Et c'est intéressant parce que, bien sûr, la construction, elle est importante. Mais Dieu s'intéresse plus au cœur de Salomon qu'aux pierres. Et c'est pareil pour nous. Ce n'est pas l'apparence extérieure qui est le plus important. Dieu s'intéresse à notre cœur. Et le procédé de construction est très parlant là-dessus. Après que Dieu eut parlé à Salomon, l'intérieur va être entièrement lambrissé de planches de cèdre. Entièrement. Puis ensuite recouverte d'or pur. Ce qui fait que on ne voyait plus aucune pierre. On ne voyait que le temple, une seule unité. On ne voyait plus aucune pierre. Les pierres avaient été taillées à l'extérieur. On ne les voyait plus. On ne voyait plus que le temple. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, dans le sanctuaire c'est le lieu, le Saint des Saints, donc qui est cubique, se tenaient côte à côte deux chérubins de bois d'olivier sauvage qui ont été recouverts d'or. Leurs ailes étaient déployées sur toute la largeur du lieu très saint, donc 10 mètres. Et les chérubins symbolisaient la présence de l'Éternel. Et ils symbolisaient aussi la distance qui séparait Dieu du peuple. Il y avait encore à l'époque cette distance, cette séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et les chérubins étaient là pour nous le rappeler. On se rappelle que Dieu avait placé des chérubins pour empêcher l'accès à l'arbre de vie à Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Il avait placé des chérubins avec une épée flamboyante pour empêcher quiconque de toucher à l'arbre de vie, d'en prendre. C'est en Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. Les chérubins gardaient donc marqué la séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. Alors, on peut y voir, on peut y relever aussi sur les murs, sur tout le pourtour des murs du temple et sur les battants des portes en bois, il y avait de l'art. Il y avait des chérubins, donc plus petits, je suppose, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies qui étaient sculptés sur tout le pourtour de la maison. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, en tout cas, moi je ne vois rien d'autre que de l'art. Nous avons un Dieu qui est esthétique, qui aime, tout ce qu'il a créé est parfait, et en tout cas, il fait les choses bien et belles. Dieu est aussi artiste. Donc on a le lieu très saint qui est cubique, et en face, il y a le parvis intérieur réservé au sacrificateur. Dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y aller une fois par an. Pour offrir des sacrifices pour lui et pour le peuple. Donc, le lieu très saint, le lieu saint, le parvis intérieur, qui était pour les prêtres, pour les sacrificateurs. Et entre les deux, donc, il y avait un mur bas qui était formé de trois rangées de pierres de taille superposées et une rangée de poutres de cèdre, nous dit le texte. Et il y avait un immense autel de bronze recouvert de... Alors c'est intéressant, il a été recouvert de cèdre, puis d'or, dans le parvis intérieur, qui était destiné au sacrifice offert par les prêtres pour les péchés du peuple. Autre détail qu'il est bon de relever, c'est que tout autour du bâtiment s'élevaient trois étages. Trois étages composés de chambres latérales tout autour du temple, qui étaient contre les murs du temple, à l'extérieur donc. Et ces salles ne faisaient pas partie du temple. C'était des chambres destinées aux prêtres, aux sacrificateurs. Ils ne faisaient pas partie du temple. Donc le lieu très saint, le lieu saint qui est le parvis intérieur, et ensuite il y a le parvis extérieur qui était destiné au peuple, où le peuple d'Israël pouvait s'avancer. Le temple est donc terminé. Il a été terminé au bout de 7 ans, exactement comme il devait être, nous dit le texte. Effectivement, c'est Dieu qui en est l'architecte, qui a donné le plan à David, qui l'a transmis à son fils Salomon. Vous pouvez voir cela en 1 Chronique, chapitre 28, versets 11 à 19. Le temple est terminé, et pour autant, est-ce que tout s'arrête là? Non, la suite de l'histoire nous montrera que Salomon ne restera pas fidèle à Dieu, comme Dieu lui avait demandé. Tout cet or, toute cette accumulation de richesses, après avoir été symbole de bénédiction, eh bien, l'accumulation de tant d'or va devenir un jugement de la part de Dieu, lorsque Jérusalem sera conquis par les armées babyloniennes en 586, avant Jésus-Christ. Et le temple sera détruit. Ce temple magnifique, qui est le premier temple, sera détruit. Aujourd'hui, après, il y a eu un deuxième temple, aujourd'hui, il n'y a plus que le mur des lamentations en Israël. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, le temple de Salomon n'est plus nécessaire. C'est mon troisième point. Quel est le temple sous la nouvelle alliance? Ce temple n'est plus nécessaire depuis que Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix et ressuscité. Alors c'est quoi ce temple sous la nouvelle alliance depuis que Jésus est venu? Eh bien c'est nous. C'est toi, c'est moi, si tu crois en Jésus, si tu l'as reçu comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et nous sommes, comme je l'ai dit, le temple c'est pas ces pierres-là, le temple c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes de la maison de Dieu, qui est son Église. Et les sacrificateurs, ils sont où? Ils sont où les prêtres? Eh bien si tu es chrétien, c'est toi, c'est moi. C'est nous les prêtres, c'est nous les sacrificateurs. Quel sacrifice offrons-nous à Dieu? Plus des agneaux, plus des brebis, des moutons, non. Notre sacrifice que Dieu agrée, c'est le sacrifice de nos lèvres. Sacrifice de louange. Je lirai dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables par Dieu à Jésus-Christ. Notre sacrifice, c'est notre louange, notre adoration envers Dieu. Nous sommes nous-mêmes des pierres vivantes qui constituons le temple de Dieu. Pour ceux qui étaient au week-end d'église, Pierre Danis nous a rappelé qu'il y a un chant qui s'appelle « Un jour dans tes parvis ». Et c'est vrai qu'il a fait une correction sur ce chant. Il ne s'agit pas, aujourd'hui nous n'avons pas accès au parvis intérieur, ni au parvis extérieur. Aujourd'hui, nous, l'Église, nous avons accès au Saint des Saints, au lieu très saint, à la présence même de Dieu. Directement, bien sûr, par Jésus. Et il est bon de nous le rappeler, frères et sœurs. Nous avons accès au lieu très saint. Parce que Dieu veut nous avoir avec lui dans sa présence même. Il nous veut avec lui en sa présence même. Il a préparé une place pour chacun des siens, dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, avec lui, là où il réside. Il a préparé une place pour les sacrificateurs que nous sommes devenus, nous les croyants, tous chrétiens. Notre place n'est plus autour de la maison, comme c'était le cas dans le temple de Salomon. Notre place, il nous veut avec lui dans le lieu très saint, à l'intérieur, et non plus autour de la maison, comme c'était le cas pour les prêtres. Jésus a dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Jésus lui-même nous prépare une place pour être avec lui. C'est intéressant que le texte nous dit que l'accès au lieu très saint était assurée d'une nouvelle manière dans ce temple de Salomon, comparaison au tabernacle. C'était nouveau puisque c'était une porte à deux battants en bois d'olivier sauvage. Cette porte était constituée de deux battants en bois d'olivier sauvage. Le bois, c'est un matériau fragile. Nous sommes fragiles, nous sommes humains. Jésus a été cloué au bois dans sa faiblesse, volontairement, pour tes péchés et les miens. Et Jésus, il est devenu la porte du lieu très saint, qui nous permet d'accéder à son Père, au Dieu trois fois saint. Il est lui-même la porte. Il a dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Dans le processus de construction, c'est intéressant de remarquer qu'il y a plusieurs phases. D'abord, on pose les pierres. Ensuite, on recouvre les pierres de bois, de cèdre. Et ensuite, on recouvre le bois d'or. Et à l'intérieur du temple, une fois que c'était terminé, on ne voyait plus que de l'or. De l'or partout, recouvrant les murs. Non seulement les murs, mais aussi l'autel des sacrifices, aussi les chérubins. Et à l'extérieur, on voyait de l'or où ça ? Sur le sol. Tout le sol était recouvert en or. Ce qui fait que les pierres, même taillées avec autant de soin, n'étaient plus apparentes. Dieu regarde plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il regarde au cœur. Et Dieu se réjouit des pierres vivantes de son Église que nous formons ensemble, nous qui croyons, qui avons accepté Jésus. Dieu se réjouit des pierres vivantes de son Église, même si personne ne voit comment il les a taillées. Moi, je ne sais pas comment Dieu t'a préparé. Mais il t'a préparé. Si tu es là aujourd'hui. Parfois, peut-être dans la souffrance. Mais il veut nous tailler. Il veut nous rendre conformes à son fils Jésus. Personne n'a vu, quand quelqu'un qui est rentré dans ce temple, personne ne pouvait voir les pierres, comment elles ont été taillées, magnifiquement taillées. Aujourd'hui, personne ne voit comment nous avons été taillés. Pourquoi ? Parce que Dieu veut d'abord nous rendre beaux intérieurement, beaux et belles. Il veut faire de nous des pierres qui sont belles intérieurement. Puis, de même que tout l'intérieur en pierre taillée devait être recouvert de bois puis d'or, notre cœur de pierre a été taillé puis recouvert de bois, symboliquement, lorsque nous avons cru en Jésus qui a été cloué au bois. Ça nous rappelle la croix. La pierre a été recouverte de bois, les pierres vivantes que nous sommes. Puis, ça ne s'arrête pas là, le bois a ensuite été recouvert d'or. Eh bien, Dieu nous a revêtus de la justice de son Fils lorsque nous l'avons accepté. Et symboliquement, de même que l'or est précieux, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Parce qu'il a promis de nous rendre parfaits à la ressemblance de son Fils si nous marchons avec lui. Nous sommes précieux. C'est lui qui nous rend précieux. Alors, il y a quelques autres applications pour nous. On remarque quand même que Dieu a pris beaucoup de soin à bâtir sa maison, son temple. Eh bien, c'est un modèle pour nous. Il veut que nous aussi, que tout ce que l'on entreprend pour lui soit bien fait. Non pas à la légère, mais bien fait. Parce qu'il en est digne, que ce soit de la musique, que ce soit de la construction, que ce soit tout ce que nous faisons pour lui. Il veut que ce soit bien fait. Parce qu'il en est digne. Autre application pour nous. Alors, Salomon a écrit un seul psaume, c'est le psaume 127, et qui est riche aussi d'enseignements pour nous. Psaume 127, verset 1. Je lirai seulement le verset 1. Et il savait de quoi il parlait, Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Il y a des grands ouvrages aujourd'hui. Si Dieu n'est pas au cœur de ce projet, ça ne sert à rien. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Quelle est la maison que tu veux bâtir ? Ça peut être une famille. Si tu ne mets pas Dieu au centre pour conduire ta famille, pour construire ta famille, ça sera très fragile. Ça sera pour rien. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Assurons-nous, avant d'entreprendre toute grande entreprise, que le Seigneur veut la bénir et la bâtir avec nous. C'est vrai pour fonder une famille. C'est vrai aussi quand tu veux déménager, que tu cherches une autre maison. Remettons tous nos projets au Seigneur, pour que ce soit lui qui soit au centre. Une autre application pour nous, puisqu'il est question de maison. Une maison, si elle est bâtie sur le roc, elle tiendra. Quelle application pour nous autres? Comment est-ce que notre maison à nous est bâtie sur le roc si nous mettons en pratique la parole de Dieu? C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 47 et 48, je vous le lis. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Mettons en pratique la parole de Dieu. Notre vie sera bien assurée sur le roc, sur Jésus. Autre application pour nous, Hiram était autrefois ami de David. Et il voulait montrer la même bienveillance envers Salomon, son fils. Mais il attendait une contrepartie, il voulait aussi bénéficier de sa provision, de ses ressources, de ses richesses, de sa gloire. Eh bien, nous autres, croyants, nous avons accès au Saint des Saints. Nous avons accès à la gloire de Dieu. Dieu qui veut nous combler de toutes ses grâces en son Fils Jésus. N'ayons pas peur de les demander. Si nous les demandons pour la gloire de Dieu, pour que lui rayonne et pas pour nous, nous pouvons lui demander. Toutes ces grâces, elles sont à notre disposition, nous avons accès au lieu très saint. Demandez-lui pas pour notre gloire, pour la sienne, pour que sa gloire rayonne. Et puis, pour ce qui nous attend, je vais terminer avec ça, nous sommes le peuple de Dieu, à la base des pierres qui ont été taillées, puis recouvertes de bois, lorsque nous avons cru en Jésus, puis recouvertes d'or, en vue de ce qui nous attend, de notre future maison, maison de gloire qui sera la Jérusalem céleste, dont Dieu est aussi l'architecte, quand il reviendra. Il y a un point commun entre le tabernacle, le temple de Salomon et la Jérusalem céleste, c'est que les trois étaient cubiques. Ils étaient cubiques, hauteur égale longueur égale largeur. Les trois étaient cubiques. Je vous lis simplement dans Apocalypse, chapitre 21, verset 16, la forme de la Jérusalem céleste. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et on trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. La Jérusalem céleste, la ville qui attend les croyants, elle est cubique. Il y aura de l'or aussi dans cette ville. Apocalypse 21, verset 20 nous dit « La grande rue de la ville était d'or pur comme du verre transparent. » Mais à ce moment-là, l'or ne sera plus symbole de richesse, de convoitise, de puissance. Mais l'or sera symbole de sainteté et de gloire divine. Nous sommes le temple de Dieu, l'Église. Mais ce qui nous attend est encore plus glorieux. Dieu lui-même sera notre temple dans la Jérusalem céleste. Je vous lis ce qui termine l'Apocalypse, pas tout à fait le dernier verset. Apocalypse 21, verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Nous sommes le temple de Dieu. Dieu sera notre temple. Et il l'est déjà, par la foi. Alors, attendons ce jour, ce jour qui attend tout croyant, frères et sœurs. Je termine avec ce que j'ai choisi comme titre de mon message. Psaume 29, verset 9, « Dans le temple, tout dit gloire. » Amen. Je vous prie. Seigneur, oui, quelle gloire que la tienne, Seigneur. Et cette gloire, tu veux nous la faire partager, Seigneur. Tu veux nous la faire vivre. Tu nous veux en ta présence. C'est vrai que notre péché, Seigneur, nous avait séparés de toi, mais grâce et gloire te soient rendues, parce que, Seigneur, Tu as enlevé cette séparation en venant toi-même, Seigneur, dans ta chair. Et dans la chair, et en t'offrant toi-même pour nous, Seigneur. Pour nous permettre d'accéder à ta présence glorieuse, Seigneur, au sein des saints, au lieu trois fois saint. Seigneur, que nous ne nous en privions pas, que nous soyons conscients, Seigneur, de cette richesse que tu nous as donnée par la foi. Et Seigneur, de manière à ce que nous soyons prêts quand tu reviendras, Seigneur, si tu reviens de notre vivant ici-bas. Et Seigneur, je te prie que nous recherchions ta gloire, Seigneur, oui, et tu te laisseras trouver. Que nous la recherchions pour que, Seigneur, les gens la voient et se tournent vers toi, Seigneur. Merci, Père, parce que c'est toi qui le feras. Et tu as, ce que tu as commencé en nous, Seigneur, tu le termineras. Merci, parce que toutes tes promesses sont vraies. Tes promesses dans ta parole. Veuille nous accompagner, nous raccompagner chacun. Et je te remets tout le restant de cette journée, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.